Il y a de la peur, mais en même temps, on est assez bien dans nos bottes. On est prêt, on est toujours aussi motivé pour aider les gens.
Se sentant discriminé, se sentant non admis ailleurs, ce territoire-là leur appartient. Et tout ce qui pénètre leur territoire qui est étranger, ils n'en veulent pas.
Quand on regarde sur notre BIP qui nous informe de l'intervention, on voit l'adresse du quartier. Bon, de suite, on sait qu'on est exposé à un risque supplémentaire.
Incendie volontaire de deux boucheries, braquage de la boulangerie et de la supérette casino sur la place commerciale et du Lidl rue de Ferretra, altercation avec certains commerçants, multiplication du nombre d'agressions à domicile, la liste des actes de violence qui menacent les habitants d'Ampalo s'allonge de semaine en semaine. Depuis plusieurs mois maintenant, l'intervention des pompiers comme celle des policiers au cœur des quartiers sensibles à Toulouse se transforme selon certains en véritable traquenard, mettant sérieusement en danger l'intégrité physique des personnes qui interviennent. Le jet délibéré d'un bloc de béton de 15 kg sur une équipe de sapeurs-pompiers venue éteindre un incendie au cœur de la cité d'Ampalo dans la nuit du 26 octobre 2007 ne fait que renforcer la crainte qu'ils éprouvent à intervenir dans ces quartiers. Alors qu'il remontait dans son camion, le pompier Bruno Groux du centre de secours de Ramonville-Saint-Agne a évité de peu un chapeau de cheminée en béton qui, lancé du 12e étage d'une barre d'immeuble, est venu percuter la cabine du fourgon d'intervention stationné en bas. Sans la vigilance de ses collègues, ce soldat du feu serait aujourd'hui mort. Quelques jours plus tard, c'est une ambulance, un véhicule de secours et d'assistance aux blessés, qui a été visé par un gros pavé lancé depuis une coursive. Ces nouveaux épisodes de violence urbaine où les secouristes sont directement pris pour cible est interprété aujourd'hui comme une tentative de meurtre par certains de ces intervenants. Pour essayer de comprendre dans quelles conditions travaillent les pompiers lors de leurs interventions dans les quartiers sensibles de la ville, je vous propose d'entendre l'adjudant Philippe Séguier, chef de groupe au centre de secours de Ramonville-Saint-Agne et président du syndicat autonome des pompiers de la Haute-Garonne, ainsi que l'adjudant Bruno Groux, qui nous fait le récit de ce soir où lui et son équipe ont été agressés.
Avec mon équipage, 6 hommes dans un engin pompe, nous sommes partis pour un feu de voiture à 00:56 dans la nuit de vendredi à samedi. Nous avons donc rendez-vous à un point de transit qui nous permet donc de nous mettre à l'abri et d'attendre la sécurisation du quartier. Le feu vert a été donné, nous nous sommes donc dirigés vers le feu de voiture et 100 mètres avant donc d'arriver sur ce feu, nous avons dû passer par un passage très étroit où j'ai pensé bien faire que de descendre du camion pour m'approcher et me rendre compte de la difficulté du passage avec le camion. Là, mes collègues m'ont demandé de rester dans le camion. Quelques mètres après, nous avons donc reçu une marmite. Alors cette marmite, c'est un bloc de béton qui fait couvercle sur les cheminées d'immeubles. Donc c'est arrivé très vite, très haut, et ça a causé des dégâts sur le fourgon, et ça nous a choqués. Nous avons dû donc nous retirer de l'intervention, retrouver donc notre point de transit, alerter notre état-major de ce qui venait de se passer. De là, à nouveau, une reconnaissance de la police qui nous a permis une demi-heure après d'intervenir dans de bonnes conditions.
Alors, ces interventions, elles se passent de façon différente lorsque vous intervenez dans ces quartiers. Il y a une procédure particulière ?
Oui, donc nous partons de la caserne avec une adresse et bien sûr un sujet d'intervention. Mais nous ne nous rendons pas sur le point à l'adresse même de l'intervention. Nous nous mettons à l'abri 500 mètres avant l'intervention.
Et ça, depuis quand ?
Depuis plus de 2 ans, avec une attente plus ou moins longue. Ce qui est difficile pour nous, ça ne fait pas partie de notre travail que d'attendre, sachant que c'est nos premières minutes d'intervention qui priment sur notre qualité de travail.
Quand on regarde sur notre BIP qui nous informe de l'intervention, on voit l'adresse du quartier.
Philippe Séguier, président du syndicat autonome des pompiers professionnels de Haute-Garonne.
Bon, de suite, on sait qu'on est exposé à un risque supplémentaire. Donc des notes de service sont sorties en nous expliquant qu'il fallait attendre, se préparer. Des points sont choisis, des points connus également par ces individus, puisque récemment également sur un point de transit, un point d'attente, ils appellent ça plutôt, des collègues se sont retrouvés attaqués par une bande de jeunes avec des capuches.
Ça veut dire que vous avez parfois l'impression de tomber dans de véritables guet-apens ?
C'est ça. Hein. De toute façon, des feux sont allumés dans des culs-de-sac. Les personnes qui habitent dans ces cités connaissent parfaitement les lieux et savent nous attendre. Il nous est déjà arrivé de trouver des bouteilles de gaz dans les voitures enflammées. Donc c'est pas anodin. Quoi. C'est pour faire mal, c'est pour blesser, c'est pour nous attaquer. Quoi.
On peut comprendre qu'il est difficile pour les pompiers d'expliquer une telle violence, surtout quand elle vise ceux qui sont en charge d'une mission républicaine comme celle qui vise à porter secours et à braver le danger des flammes. Est-il possible de continuer à faire son devoir dans un tel climat de peur ? Dans quel état d'esprit interviennent les pompiers victimes comme tant d'autres de ces folles provocations ? L'adjudant Philippe Séguier, chef de groupe au centre de secours de Ramonville et président du syndicat autonome des pompiers de la Haute-Garonne, s'interroge et cherche des réponses. Comment vous expliquez justement que des forces de l'ordre, que les pompiers, que les médecins, que des chauffeurs de bus soient aujourd'hui pris à partie dans ces quartiers ?
Ben nous, on ne l'explique pas, quoi. Je veux dire, on ne comprend pas. Les sapeurs-pompiers sont là pour porter secours, les médecins, les chauffeurs de bus, les forces de police sont faites pour également faire leur travail. Je ne comprends pas. On dirait un petit peu une attaque de l'autorité de l'État à travers ce genre d'agression.
C'est comme ça que vous l'expliquez, vous aussi ?
J'aime dire qu'on est un des meilleurs baromètres de la population toulousaine. Nous, sapeurs-pompiers, nous intervenons de jour et de nuit au domicile de gens qui ont vraiment besoin de secours. Donc la misère, on sait ce que c'est. La misère, elle y est dans les cités. Est-ce que c'est ce qui a permis d'élever et d'éduquer les sauvageons qui nous attaquent ? Parce qu'ils attaquent la France, ils attaquent les citoyens avant tout. De plus, ces cités, ce sont des citoyens qui veulent vivre tranquillement, paisiblement. Je pense qu'ils sont déjà très embêtés par leur quotidien. Et disons, ces attaques qui sont indirectement dirigées vers eux aussi.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas parler de, puisque c'est la cité d'Ampalo à Toulouse, que de cité ghetto, parce qu'il ne faudrait pas non plus faire un amalgame et dire voilà, tous les gens qui habitent là sont du même acabit. C'est une minorité. À mon avis également, ce sont des gens qui sont connus des forces de l'ordre, puisqu'ils ont souvent affaire à eux, ils ont des casiers, ils sont ainsi de suite répertoriés. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose s'il y a vraiment une volonté. Est-ce qu'on n'entretient pas ce phénomène pour qu'on parle des cités et pas parler d'autre chose à la place ? On se pose quand même beaucoup de questions, puisqu'on a vu que le gouvernement était capable, quand les sapeurs-pompiers manifestent dans la rue à Paris, de déployer d'énormes moyens, de retourner l'opinion publique contre nous, comme nous l'avait promis M. Hortefeux, hein, qui est maintenant ministre de l'immigration, il me semble. Et donc, on est passé pour des voyous. Et ça, on sait que quand ils veulent envoyer les moyens de police, ils savent le faire.
Comment expliquer une telle violence ? Y a-t-il des causes et des raisons à ces agressions ? Quelle est la réponse des pouvoirs publics face à cette escalade ? Comment vit la jeunesse d'Ampalo ? Quels sont les ratés des politiques mises en place ? Que peut-on faire ? Nombreuses sont les questions que nous avons voulu poser à une série de personnes qui interviennent au sein du quartier d'Ampalo et plus particulièrement à la MJC d'Ampalo. Christine Torrent en est la directrice depuis 4 ans. Elle est en prise directe avec la jeunesse de ce quartier et elle réagit ici à cette dernière agression subie par les sapeurs-pompiers et en profite aussi pour dire son opinion sur les choix politiques qui ont été faits ces dernières années. Est-ce que vous pouvez, Christine Torrent, me dire votre sentiment à la suite de la dernière agression qu'ont dû subir les pompiers de la part de certains jeunes ici à Empalau?
Vous faites bien de dire certains jeunes qui sont connus et reconnus sur le quartier, qui sont de plus en plus violents. Nous, on est très inquiets parce que c'est une surenchère qui est donnée depuis maintenant 2 ans. Les pompiers, on les avait reçus à la MJC d'Empalau ainsi que la police pour un débat qui n'a jamais eu lieu. Cet état de désespérance, elle est fort inquiétante parce que nous, on a à la gérer au quotidien et pour nous, c'est pas très facile.
Ces jeunes dont vous me parlez, ils sont connus?
Ils sont connus, archi-connus, et nous, on se pose justement la question, finalement, à qui profite le crime ? Sûrement pas à nous qui sommes sur le terrain, aux gens qui essaient de vivre paisiblement, et aux citoyens lambda qui payent ses impôts comme partout ailleurs. Nous, on déplore que la police de proximité, celle qui, au quotidien, peut intervenir de façon quotidienne, tranquille, sans agression, des CRS en commando, en couvre-feu le soir. Pourquoi cette police de proximité qui est tant appelée de nos voeux est partie il y a 2 ans. Pourquoi maintenant on essaie de la ramener et qu'on n'y arrive pas? Voilà, nous on se pose beaucoup de questions, surtout à qui profite le crime. Pourquoi ces jeunes qui font des actes extrêmement graves ne sont pas arrêtés? C'est pas d'aujourd'hui. Il y a des actes qui ont été posés du genre des quads qui passent sur la dalle d'Empalau, qui renversent des personnes âgées, etc. Il y a des choses comme, par exemple, des viols de 3 jeunes filles le mois dernier. Moi, je déplore ce genre de situation. Ces actes-là, ils vont pas forcément s'arrêter puisque les solutions ne sont pas trouvées. Il y a urgence à la matière. Nous, on appelle tous nos voeux, qui est surtout du dialogue entre toutes ces personnes-là.
Couplet. Refrain. Où tu as trouvé le waouh?
Ce sont 607 adhérents qui participent aux activités animées par une quarantaine de bénévoles et que propose la MJC d'Empalau. Mez est animateur salarié. Il est en charge des activités musicales mises en place par la MJC. Aidé de Hakim, animateur bénévole et vice-président de la MJC, ils font le maximum pour permettre aux jeunes du quartier de vivre à fond leur passion pour la musique. Ils nous parlent ici de la jeunesse d'Empalau.
Bon allez, on va répondre aux questions.
La jeunesse de mon quartier, elle est perdue. Stigmatisé, les politiciens n'y croient plus. Je cautionne pas ce que mes frères ont fait, mais arrivé un moment, ils sont débordés, quoi, les jeunes. Hein, ils ont plus de porte de sortie, donc ils sont obligés d'utiliser la violence. Moi, je sais que j'habite dans le quartier, et à chaque fois que je dis ouais, j'habite en Palo, les mecs ils me regardent avec des yeux, on dirait j'ai. Voilà, c'est ça, on est catalogué, toujours. Moi, je sors du quartier, là, il est encerclé chaque jour, H24. À chaque fois, je mange 2 contrôles dans la journée. Les mecs, on dirait, font exprès. C'est normal, après, on pète les plombs, c'est normal. Moi, je cautionne pas encore une fois ce qu'ils ont fait parce que on a un ras-le-bol, c'est ça. Personne ne croit en nous. C'est normal qu'au bout d'un moment, on pète les plombs. Un individu, il a besoin d'avoir une identité, d'appartenir à un groupe, d'avoir un, je sais pas, une identité sociale. Et nous, on est traités comme des immigrés ici, on est traités au bled comme des immigrés. C'est ça le vrai problème de fond, c'est un problème identitaire. C'est que, voilà, on ne sait pas d'où on vient, en quelque sorte. C'est ça le problème de fond. Et les politiciens, ils se posent pas les vraies questions. Ils voient que la violence, ils voient l'aspect extérieur. Mais voilà. Après, c'est vrai que ils utilisent beaucoup la répression. Et nous, comme au studio d'enregistrement, on fait plus un travail de fond. Un travail de fond, parce que voilà, déjà on est dans le social, mais un travail de fond, c'est-à-dire qu'à travers la musique, on va amener les jeunes à avoir un autre comportement vis-à-vis du quartier, avoir un autre comportement vis-à-vis des gens et essayer d'avoir, de suivre, d'avoir un but, de s'accrocher à quelque chose. C'est ça le but.
Concernant ce qui s'est passé, bien sûr, j'en ai entendu parler de cette. Comment dirais-je, je ne sais pas comment qualifier ça, mais je trouve, pour moi, c'est une violence aveugle. Après, bien sûr, je reviens sur ce qu'il disait Hakim, on ne cautionne pas du tout ce qui s'est passé. Pourquoi ce malaise? Je pense que il faudrait peut-être qu'on prenne un peu de temps, se poser et écouter un peu ce que veulent ces jeunes. Je pense que la réelle question, elle est là. Pourquoi toute cette violence? T'as la police d'un côté, t'as les jeunes de l'autre, chacun est dans son côté, dans son camp, ça dialogue pas. Après, il y a un petit déséquilibre aussi côté social, comme disait Hakim. Le travail, quoi. Il n'y a pas de travail pour ces jeunes. Il n'y a pas de travail. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Rien. Donc, bon, on passe le temps comme on peut, maladroitement, comme ce qui s'est passé là. Bon, voilà, quoi. Donc, je pense que la question de fond, elle est là. Et donc, voilà, quoi. Nous, on s'est rendu compte que quand tu prends le temps d'écouter un petit peu, où il y a des choses positives qui émergent, quoi. Donc voilà, le réel problème, il est là. Est-ce qu'on accorde assez de temps? Est-ce qu'on va vers les gens? La question, elle est là. Et c'est pour ça que, bon, voilà. Et puis après, le côté travail aussi. Il n'y a pas de travail pour les jeunes. Voilà, il y a tous ces facteurs qui jouent. Donc voilà.
Problème de chômage, discrimination à l'embauche, stigmatisation des quartiers, manque d'écoute et de concertation, ce sont les raisons qui, selon Marie-Thérèse Martinelli, présidente de la MJC d'Ampalo, peuvent expliquer le désarroi de la jeunesse des banlieues. Un désarroi qui s'exprime de façon agressive et violente chez les plus déstructurés d'entre eux.
Alors, je peux vous dire que sur Ampalo, les problèmes de chômage sur lesquels nous n'avons pas de prix, ce n'est pas notre action, mais disons qu'ils se répercutent sur les problématiques du quartier. Eh bien, sur la population jeune, le taux de chômage est supérieur à 40%. Donc, nous avons beaucoup de jeunes diplômés, parce qu'on dit aussi qu'ils n'ont pas de compétences. Ce qui est faux, nous avons énormément de jeunes qui viennent ici sur la MJC, qui ont des diplômes, mais qui ne trouvent pas de travail. Et quand on vient de quartiers comme le nôtre, quand on porte des noms de consonance maghrébine ou étrangère, eh bien, on a des difficultés plus grandes, parce que la discrimination, eux, ils la vivent au quotidien. Ce que nous disaient les jeunes, c'est on ne nous écoute pas. On ne nous entend pas, on ne fait pas une politique qui nous corresponde. Je crois que ça, c'est très fort chez les jeunes. Il n'y a pas de lieu où la parole des jeunes serait prise en compte, parce qu'il ne suffit pas de les laisser parler. Une fois qu'on l'a laissé parler, il faut aussi mettre en œuvre la réponse. Et c'est là que la réponse ne vient pas. Il y a une question très importante qui est la police de proximité que nous avons perdue. Actuellement, la présence dans les quartiers est uniquement répressive et elle est en réaction à ce que font les jeunes. Elle n'est jamais en prévention avant que ça se passe. Et ça, c'est extrêmement dommageable. La deuxième cause, à mon avis, très très importante, c'est la concentration de population à problèmes économiques, sociaux, d'intégration culturelle. Puis je vous disais tout à l'heure, les problèmes d'emploi, des générations qui n'ont pas vu dans la famille une intégration professionnelle. Parce que l'intégration professionnelle, c'est pas que le professionnel, c'est aussi le lien social dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on côtoie d'autres personnes, on côtoie d'autres milieux, d'autres cultures, d'autres modes de vie. Là, ce mélange-là n'a pas pu se faire non plus à travers le monde du travail. On en paye aujourd'hui les conséquences et on le voit particulièrement ici sur Ampalo, les jeunes générations, les très jeunes générations, les adolescents de 12, 13, 14 ans sont une problématique immense. On le voit venir maintenant. C'est ceux qui, justement, sont en train de payer toutes ces erreurs.
Mais d'abord, les pompiers ont-ils dérapé hier lors de leur manifestation à Paris?
Les pompiers ont convergé par milliers à Paris pour une grande manifestation qui a dégénéré cet après-midi. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont fait 15 blessés.
Les pompiers étaient venus à Paris défendre leur retraite et leur fin de carrière. Très vite, une partie d'entre eux a dirigé sa colère vers les forces de l'ordre. 2 heures d'affrontement.
Un manque de concertation, une absence d'écoute et de reconnaissance, c'est aussi ce que reprochent les pompiers à leur hiérarchie et aux hommes politiques qui les commandent. En septembre 2006, ils avaient manifesté pour réclamer une prime de 70 euros pour les pompiers qui travaillent en zone urbaine sensible et le départ à la retraite à 55 ans. Des manifestations qui s'étaient soldées par de violentes altercations avec les CRS. Et depuis, les pompiers n'ont toujours pas eu gain de cause.
Bouches à incendie ont été ouvertes et des feux de poubelle allumés systématiquement.
Les débordements seront sévèrement réprimés. Ce n'est pas acceptable, la violence. D'aucun corps de métier.
Vous avez l'impression de ne pas être entendu par les pouvoirs publics ?
Mais si nous reparlions des mouvements du mois de septembre dernier où nous demandions à ce que soit maintenue une NBI, c'est-à-dire une prime qui avait été accordé aux sapeurs-pompiers pendant moins d'un mois, qui a été retiré pour les personnels qui travaillent dans les quartiers difficiles. Effectivement, on n'est pas entendu du tout sur notre problème.
Comment jugez-vous la réaction des hommes politiques sur cette violence ?
Je ne répondrai pas à votre question.
Bruno Groux, adjudant du centre de secours de Ramonville-Saint-Agne.
Parce que je suis en uniforme et que mon métier, c'est pas de faire de la politique. J'irai voter, je continuerai à voter. Je continuerai aussi, s'il le faut, à descendre dans la rue. Ça, c'est sûr. Et à me faire entendre. Et en espérant ne pas devenir, au fond, ou n'être vu pas comme des sauvageons. Parce que ce qui se passe dans les cités et ce qui se passe chez les sapeurs-pompiers, ce n'est pas la même chose, mais à la finalité, on s'y retrouve un peu. Ouais. Par rapport justement à comment on est vu ou entendu par nos politiques.
Moi, je vais peut-être répondre sous l'égide du président du syndicat, c'est plus facile pour moi. Ce que je veux dire, c'est que la police de proximité, par contre, qui est dans ces cités, a été retiré. C'était peut-être un fil conducteur pour avoir une autre approche des gens en uniforme de police. C'était peut-être un peu plus de confiance. Et je crois que si on retire tout et qu'on met un grillage autour des cités, effectivement, on obtient ce qu'on voit actuellement.
En quel état psychologique vous trouvez aujourd'hui ?
Il y a de la peur, mais en même temps, on est assez bien dans nos bottes, on est prêt, on est toujours aussi motivé pour aider les gens.
Est-ce qu'on peut travailler avec la peur ?
Oui, on peut, difficilement. Je pense qu'à part la suite, il va falloir bien prendre soin de nous quand on est de repos. Avoir une famille pour nous écouter et des moments aussi de qualité pour évacuer tout ça.
Et justement, la qualité de vie d'un pompier aujourd'hui, est-ce qu'elle est à la hauteur de ce que vous devez affronter ?
Nous ne sommes toujours pas reconnus un métier à risque. Donc tout découle de là aussi. Nos politiques sont bien contents de nous avoir parce qu'on est avant tout, on fait ce métier par vocation. On le fait avec nos tripes. Et ça fait le régal de nos politiques. Tant qu'on aura des gens comme ça, ils se disent, on n'a pas besoin peut-être de trop les payer.
Ce reportage se termine. Merci à tous ceux qui ont bien voulu répondre à quelques-unes de mes questions.